l'hebdo des régions, avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers.
Bonjour et bienvenue sur Radio Immo. Nous sommes en direct, comme chaque fois, à 11h pour ce nouvel épisode de l'Hebdo des Régions, notre émission en partenariat avec la FPI. Au programme, le mot du président. Malheureusement, nous n'aurons pas cette fois-ci exceptionnellement l'édito de Christophe Bordet, mon co-animateur, puisque malheureusement, il était indisponible pour cette émission. On pense fort à lui. Et donc, du coup, on enchaînera directement avec le débat et nos invités du jour. Aujourd'hui, nous partons dans la région Occitanie-Méditerranée, au soleil. Et pour partager ce plateau à nos côtés, nous accueillons... Roulement de tambour. Laurent Villaret, président de la FPI et directeur associé.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent. Vous m'arrêtez si je fais erreur sur votre titre, mais directeur associé du groupe GGL Hellenis.
Oui.
Tout à fait. Roch Angelotti sera également parmi nous. Il est directeur général d'Angelotti Promotion.
Bonjour à tous.
Bonjour Roch. Julien Sangali, directeur général du groupe SM, à Narbonne. Alors l'idée, c'est d'avoir une représentation de trois villes de cette région. Laurent est plutôt Montpellier, d'après ce que j'ai compris.
Un peu plus, oui.
Roch, plutôt Béziers, et Julien, plutôt Narbonne. Très bien. Bah, écoutez, messieurs, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le mot du président, juste après ça.
L'hebdo des régions, avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
Retour sur le plateau de l'hebdo des régions. Alors, on va laisser la parole à Laurent Villaret, donc président de la FPI Occitanie-Méditerranée, pour nous présenter un petit peu sa fonction en tant que président de cette région. Nous présenter peut-être un petit peu la région aussi pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et puis, la FPI régionale, son rôle. Laurent, on vous laisse la parole.
Oui, effectivement, j'occupe cette fonction depuis 2 ans et demi à peu près. La FPI Occitanie-Méditerranée, elle couvre un territoire qui va à peu près de la ville de Perpignan jusqu'à la ville de Nîmes. Donc, une spécificité sur notre FPI qui est de conjuguer dans un territoire assez large à la fois une métropole qui est celle de Montpellier et beaucoup de villes moyennes le long des axes autoroutiers et près du littoral qui ont une vraie attractivité. C'est une FPI qui est composée à peu près d'une cinquantaine d'adhérents, donc assez importante, avec nos confrères promoteurs évidemment nationaux et beaucoup d'entreprises indépendantes qui sont réparties sur tout le territoire. Donc avec une FPI avec beaucoup d'experts, beaucoup de sensibilité architecturale sur tout le territoire. C'est ce qui fait un peu notre image de marque, en tout cas dans le Sud.
Eh bien, merci Laurent. On va faire réagir vos compères sur ce que vous venez de nous dire. Roch, vous êtes adhérent FPI, du coup, ça se passe comment ?
Ça se passe très bien. Ça fait, je crois, ça doit faire 5 ou 6 ans. La fédération nous permet effectivement d'abord de côtoyer nos confrères, qui est toujours, je trouve, un plaisir et au-delà de ça, quelque chose qui est bien pour rester effectivement au courant de tout ce qui se passe et au-delà de ça, de partager le quotidien, de partager les problématiques ou les réussites du quotidien, en parler un petit peu avec nos pairs et c'est toujours enrichissant. Donc, je ne me voyais pas faire mon métier de promoteur sans faire partie d'une fédération professionnelle.
Merci, Roch. Julien, un petit mot peut-être ?
Ça fait une dizaine d'années que nous sommes à la FPI. C'est un choix que nous avons fait par rapport à la professionnalisation du métier, en voulant s'intégrer dans une dimension aussi un petit peu plus régionale. Comme l'a dit Roch, c'est pouvoir échanger avec nos confrères, mettre aussi en commun quelque part nos idées sur le métier, ses évolutions. Et renforcer nos actions sur le territoire d'Occitanie.
Bon, tout le monde a l'air satisfait en tout cas.
Ouais, ça va.
Eh bien, écoutez, je vous démarre, je vous propose, pardon, qu'on entame tout de suite le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui nous intéresse sur la région et savoir un petit peu comment ça se passe dans la pratique. On va parler effectivement du marché occitan-méditerranéen et on a intitulé cette émission « La revanche des villes moyennes ». Donc, Laurent, peut-être commencer par vous, comment se comporte le marché actuellement et comme on le disait, vous avez une région qui a quand même pas mal de villes moyennes. A priori, vous êtes la zone littorale la moins chère de France ?
Pour l'instant. oui, c'est vrai que le territoire qu'on occupe, il a une spécificité marquée. C'est-à-dire qu'on a des villes moyennes qui sont Perpignan, Narbonne, Béziers, Sète, Nîmes, Lunel, qui sont tout le long des axes autoroutiers du littoral, qui ont une... Qui ont une vraie attractivité aujourd'hui. Pour faire un panorama de Perpignan à Nîmes avec la métropole de Montpellier, jusqu'à maintenant, le logement neuf, c'était à peu près 7 000, 8 000 logements par an. Avec la contraction très forte que l'on observe malheureusement sur la métropole de Montpellier, c'est vrai qu'il y a une perspective de production qui s'est amenuisé depuis 2 ans, et on pense qu'on va atteindre cette année entre 4 et 5 000 logements sur la totalité du territoire. Et on s'aperçoit qu'en fait, dans le cadre de cette érosion de la production de logements neufs que l'on combat, on soutient à fond la production parce que la demande n'a jamais été aussi forte, on s'aperçoit que finalement, les grandes villes, elles sont plus seules dans le palmarès de l'attractivité, en fait. Les villes moyennes, depuis la crise du Covid, elles ont constitué des bases solides qui leur permettent aujourd'hui de répondre aux envies des Français, à la recherche d'une meilleure qualité de vie, d'une proximité à la nature, tout en gardant, en fait, un confort de service, une offre d'innovation qui leur est propre, en fait. Donc, l'engouement des villes moyennes, je pense qu'il va se pérenniser. Et en fait, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a une concrétisation de ça parce qu'on voit que les marchés qu'on appelle, nous, marchés secondaires autour de la métropole, sont attractifs. Ils ne sont pas suffisamment alimentés aujourd'hui, mais on voit que tout ce qui sort se vend extrêmement vite. Alors, je suppose que Charlotte, vous poserez des questions sur des exemples de villes, mais... en tout cas, il est une nécessité absolue de soutenir ces marchés des villes moyennes parce que les Français se tournent vers ça aujourd'hui aussi.
Oui, oui, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut observer dans la plupart des régions dans lesquelles nous sommes allés avec cet hebdo des régions, c'est-à-dire un stock qui est plutôt faible et une forte demande. Et effectivement, l'attractivité des villes moyennes, on en parle beaucoup depuis la crise du Covid. Et du coup, ça m'emmène à vous poser la question de savoir si effectivement cet impact, vous le pensez, cet impact de la crise sanitaire, est-ce que vous pensez que c'est une lubie le temps que tout revienne à la normale ou est-ce que c'est quelque chose qui va se pérenniser ? Roch, peut-être un petit mot sur cette question.
Je pense qu'on parlait de la remontée en puissance des villes moyennes avant la crise du Covid. On avait quand même déjà un mouvement qui s'était initié pour plein de raisons. Alors après, effectivement, il faut bien différencier les communes qui sont en deuxième couronne de la métropole de Montpellier, par exemple, dont on ne peut pas dire quelles sont les villes moyennes. Elles vivent dans l'attractivité de la ville, de la métropole montpelliéraine. Et pour moi, les véritables villes moyennes que sont Béziers, Narbonne, Nîmes, qui est un petit peu dans l'intermédiaire, effectivement, sont des villes qui je pense, sont ont continué à intéresser. Alors, contexte un petit peu particulier. Ces villes, effectivement, elles attirent parce que on y circule bien, contrairement des fois à la ville de Montpellier. Il y a un peu les avantages qui découlent des inconvénients. C'est une ville un peu de dimension moyenne, avec une offre commerciale peut-être un petit peu plus limitée, mais on y circule bien, on s'y gare facilement, pour ceux qui utilisent encore leur véhicule. D'ailleurs, pour ceux pour lesquels il est quand même encore intéressant d'utiliser son véhicule particulier, sont des villes qui ne sont pas ou très peu touchées par la piétonnisation. Un maillage en transport en commun, je pense, moindre, même s'il tente à s'améliorer. Donc pour les personnes qui aujourd'hui ont des vies un petit peu nomades, je dirais aussi, s'attacher à avoir pour point de départ Montpellier ou Béziers est à peu près... est à peu près idem peut-être. Après, effectivement, reste peut-être une facilité de vie sur les villes secondaires, peut-être aussi une attractivité sur le prix. On est sur des valeurs marchandes sur l'immobilier, mais aussi globalement sur le train de vie un petit peu du quotidien, qui sont quand même peut-être un petit peu plus attractifs, un peu plus à la portée de plus de bourses, je dirais.
Oui, ben justement, j'allais poser cette question à Julien, parce qu'au-delà, effectivement, du confort de vivre, de s'installer dans une ville moyenne, la proximité avec la nature, le fait qu'il y ait quand même généralement une offre commerciale suffisamment importante, même si moins importante que dans les grosses agglomérations, il y a quand même une histoire de prix, soyons francs. Julien ?
Alors oui, c'est vrai que forcément, le prix est un des invariants, je veux dire, dans la réussite d'un programme immobilier. Il faut pas se tromper, hein. Il faut quand même ramener les choses à chaque fois à leur juste valeur. Pour ce qui concerne Narbonne, c'est vrai qu'on constate une augmentation des prix, mais qui est dû aussi aux programmes qui sortent en ce moment, qui travaillent essentiellement sur des sites très prisés, avec une architecture bien spécifique, dans une ZAC qui est la ZAC Les Berges de la Robine, qui est vraiment un cas particulier. Après, de manière plus générale, moi je temporise un petit peu en disant que il y a un marché narbonnais qui est capable d'absorber 200-300 logements par an maximum. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est un peu le tant qu'il n'y aura pas le Pinel, tant qu'il n'y aura pas de dispositif incitant à la défiscalisation qui reviendra sur la ville, on aura des difficultés à vendre au-delà de ces chiffres, qui sont quand même déjà des beaux chiffres pour une ville moyenne.
On reviendra justement sur le Pinel, mais avant, je voudrais juste interroger Laurent sur le tissu économique de la région. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le secteur, c'est quoi à peu près en Occitanie-Méditerranée ?
Le tissu économique de la région, c'est notre région, elle est une région historiquement de tourisme, de viticulture et de
rugby,
de métier, de la tech et du médical sur la métropole. Mais on a sur les villes de Nîmes notamment et de Béziers quand même de l'industrie qui génère des emplois et donc de la demande en logement. Donc c'est vrai qu'on est une région un peu coincée entre Toulouse et Marseille qui ont un passé industriel qui n'est pas le nôtre. Par contre, on a une multitude d'attractivités, que ce soit le tourisme et quand même un bon tissu de PME dans les villes moyennes, qui font que en fait le taux démographique sur l'ex-Languedoc-Roussillon que l'on couvre n'a absolument pas pris n'a pas été érodé en fait, hein. Donc c'est vrai que quand je dis qu'on fait 8000 logements par an sur la région et que la contraction du marché immobilier qui est due à un fort ralentissement de la construction sur la métropole pour des raisons politiques et écologiques, et par malheureusement la suppression du Pinel B2 sur Narbonne et Béziers sans alternative par les services de l'État, on peut s'interroger pourquoi on est aujourd'hui dans un trend qui va nous faire 4 ou 5 000 logements cette année, alors qu'on en faisait 8 000 et que le taux démographique n'a pas été divisé par 2. Donc je passe un peu un coup de gueule là-dessus, parce que il faut pas oublier on ne doit pas oublier les villes moyennes, on ne doit pas oublier une partie du territoire. Le territoire de l'Aix-Languedoc, ce n'est pas que la métropole de Montpellier, c'est toutes ces villes moyennes qui font office de pôle d'attractivité le long du littoral et le long de l'axe autoroutier chez nous, qui est la 9, et qui génère des flux et beaucoup d'emplois. Voilà. Donc, c'est bien de poser la question du tissu économique, mais il est présent, il est toujours aussi fort et il ne faut pas oublier ces territoires. Reste aussi à indiquer, aussi, Julien en parlait tout à l'heure, si vous prenez le prix de vente de l'immobilier neuf sur la métropole de Montpellier, aujourd'hui il est entre 4300 et 4500 euros du mètre carré, ce qui est assez élevé, hein, au regard du pouvoir d'achat des ménages sur la métropole. Assez élevé parce qu'il a une dérive inflationniste depuis des années, puisque un peu comme partout en France, parce que le marché n'est pas suffisamment alimenté. Mais sur les villes moyennes où le marché finalement se comporte très bien, où il y aura un besoin d'alimentation, Vous prenez l'exemple de Nîmes, la ville de Nîmes, le prix du mètre carré, c'est 3400 euros, 3300 euros du mètre carré. Mmh. Vous prenez Narbonne, comme le disait Julien, on est à 3000, 3300 euros du mètre carré moyen, avec évidemment des spécificités sur des programmes haut de gamme. Et Béziers, c'est pareil. Donc, que ce soit pour les investisseurs ou l'achat en résidence principale, il y a quand même des opportunités vraiment intéressantes sur ces villes moyennes, quoi, qu'il faut absolument soutenir.
Oui, et vous.
D'ailleurs, je fais un appel au service de l'État pour rapidement rétablir le Pinel sur Béziers et Narbonne, puisqu'il a été oublié et qu'aucune alternative n'a été proposée. Au moins en faisant, si ce n'est pas un rétablissement total, au moins et en essayant de faire un minima des quotas ou en essayant de travailler avec les acteurs que nous sommes pour trouver des solutions qui poussent les investisseurs quand même à acheter, ce qui permet la pérennité de la sortie de nos opérations.
Bien sûr. En gros, ce que vous dites, c'est que concrètement, sans le rétablissement du Pinel pour Narbonne et Béziers, ces villes moyennes ne pourront pas absorber la demande.
Ben, simplement, l'État, quand il a décidé de supprimer ce zonage, encore une fois,
en 2019,
sans alternative, puisque moi, je ne suis pas amoureux de la loi Pinel, forcément, mais je pense qu'il faut du soutien à l'investissement dans l'immobilier, parce que c'est des emplois non délocalisables, et il y a encore une fois un taux démographique important. La seule chose que je dis, c'est que quand l'État a décidé de le supprimer sur ces deux villes particulièrement attractives, la décision a été de supprimer ces marchés. On a connu sur ces deux villes une baisse de plus de 60% de l'activité immobilière à compter du moment où le B2 s'est éteint.
Ouais.
Donc il y a quand même lieu à se poser des questions. Est-ce que ces villes moyennes attractives près des pôles du littoral qui offrent de l'emploi et une forte demande en logement méritent de ne plus produire du lendemain? Je pense que non. Voilà, je pense qu'il y a autre chose à faire. Et c'est vrai que les investisseurs qui achètent dans nos opérations sur ces villes-là, il faut qu'ils soient là parce que ça permet que ces opérations sortent. Et il n'y a pas que des investisseurs qui achètent, mais pour arriver au quota qui nous permet de financer la sortie de nos opérations, obtenir nos garanties bancaires et nos assurances, on a bien besoin qu'il y ait une quote-part d'investisseurs. Et aujourd'hui, ils se tournent là où les dispositifs Pinel perdurent. Et c'est dommage. Donc, il faut absolument faire quelque chose, et vite.
Eh ben, écoutez, Laurent, le coup de gueule est passé. On va laisser quand même nos principaux interlocuteurs pour ces deux villes s'exprimer. Roch, pour Béziers.
Nous, du point de vue du marché bitérois, on a constaté avant et après la suppression de la loi Pinel et son inéligibilité sur la ville de Béziers. La ville de Béziers produisait environ 600-650 logements par an, dont 80% étaient acquis par des investisseurs à vocation défiscalisante, donc dans le contexte Pinel. Et on avait effectivement...
Ah, on a une petite coupure, Roch. Est-ce que vous nous entendez ?
Une petite centaine de logements. On l'entend parfaitement.
Très bien. Alors, reprenez votre phrase. On a eu une petite coupure. On vous écoute.
Je parlais de 650 logements par an produits jusqu'à l'abolition de la loi Pinel à Béziers, dont à peu près 80% qui étaient acquis par des investisseurs avec une vocation défiscalisante en Pinel. C'est à peu près 500 logements par an surtout trouver immédiatement leurs locataires. Finalement, il n'y a jamais eu de vacances locatives plus qu'ailleurs à Béziers. Je dirais même qu'il y avait même parfois un phénomène un petit peu de tension au niveau du marché avec une sous-offre de logements par rapport à la demande. Aujourd'hui, nous en sommes à produire environ 200 logements par an sur Béziers, 200 logements qui sont principalement liés à de l'accession, je dirais 60% d'accession et environ 40% d'investissement non défiscalisé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne produit plus que 100 logements destinés à l'offre locative par an. Et là, de cette façon-là, pour moi, on a déstabilisé le marché locatif de Béziers et on ne satisfait pas une énorme partie de la demande de logements récents, voire neufs, nécessairement, performant du point de vue énergétique, bien placé. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les clous par rapport à une demande. D'ailleurs, le marché locatif se tend, les prix donc augmentent. Et de notre côté, on a aussi un petit peu de mise en place, alors même si elle est combattue, l'activité un peu de marchand de sommeil qui s'opère avec de la mise à disposition d'appartements, pas forcément très très bien rénovés, pas forcément très très bien, disons très très bien entretenus, parce que aujourd'hui, les candidats à la location n'ont plus beaucoup de choix pour se loger sur le territoire du Biterrois.
Très bien. Julien, est-ce que vous confirmez pour Narbonne ce que vient d'annoncer Roch?
Oui, je confirme. Ouais, on est dans quelque chose d'assez similaire avec, pour moi, une suppression du Pinel qui a eu des effets positifs et négatifs. Dans les effets positifs, il n'y en a pas eu beaucoup. Celui que je retiens est quand même important, c'est la remise en question qu'il a fallu avoir chez les promoteurs. Puisqu'il a fallu de nouveau revenir au vrai métier de la promotion immobilière, c'est-à-dire celui de l'emplacement, de la séduction, d'innovation, d'aller chercher des nouveaux concepts ou de nouvelles diversifications internes à l'entreprise. Donc ça, c'est toujours très, très positif. Je pense notamment aux seniors, parce que Narbonne est une ville qui a été classée, je crois, quatrième en 2020 au niveau national, et première d'Occitanie.
Bravo.
Voilà, il faut quand même le souligner. Hein. C'est une ville qui plaît beaucoup à, en tout cas, à cette typologie de population. Après, par contre, et là, je rejoins encore notre président sur le coup de gueule. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète particulièrement, c'est cette cohésion des territoires qui est quand même le nom ministériel de notre activité en France, et je crains qu'à moyen terme, si les choses continuent comme ça, il y ait des logements dans ces villes littorales ou ces villes moyennes littorales pour des gens avec un pouvoir d'achat qui viendront peut-être un petit peu plus on va dire de l'extérieur, bien qu'on les accueille avec plaisir, hein, attention, mais moi je pense aussi aux jeunes locaux. C'est à eux que je pense avant tout, puisque c'est eux qui je ne sais pas si demain auront le budget pour pouvoir rester dans nos moyennes. Mmh. Et je trouve dommage de ne pas pouvoir. Chaque opération que l'on réalise dans chaque commune, on sent bien qu'il y a la difficulté des élus à pouvoir conserver les jeunes locaux. Et c'est là que l'augmentation des prix liée à la pénurie, puisqu'on correspond à un marché d'offres et de demandes, donc la pénurie d'offres va avoir des effets. Moi, je trouve assez dévastateur.
Oui, on est d'accord. Et puis, si on réfléchit de manière plus générale, ces gens que vous recevez dans les villes moyennes sont des gens qui ont souvent eux-mêmes été exclus des grosses agglomérations par manque de moyens aussi. Hein. Donc, oui. Il y a une espèce de phénomène comme ça de dilatation vers l'extérieur qui va devoir effectivement aussi être absorbé en termes de logement. Justement, j'aimerais qu'on aborde, parce que le temps file et je vous avais prévenu que cette émission, malheureusement, passe très, très vite, les problèmes de production qui sont aujourd'hui multifactoriel, puisque l'idée, le nouveau credo, c'est reconstruire la ville sur la ville. Donc on a la circulaire ZAN qui est reprise notamment dans le projet de loi climat et résilience. On a aussi eu dans certaines villes des cas de blocage de permis de construire dû notamment aux élections, aux changements au niveau des mairies. J'ai pu discuter en amont avec certains d'entre vous qui m'ont expliqué qu'il y avait une seconde génération de PLU aussi qui pouvait empêcher de produire. Donc j'aimerais avoir vos réactions, ça va être notre dernier point de cette émission, vos réactions justement sur, de manière générale, les problèmes de production que vous rencontrez qui ne sont pas dus. On a parlé du Pinel aussi, hein, qui en fait du coup forcément partie, mais il me semble, Laurent, que c'est multifactoriel.
Il est clair que ce sentiment de renforcement du besoin d'écologie en politique et auprès des citoyens n'a pas aidé, en tout cas, les maires et a fortement influencé les différentes élections dans les communes qui ont eu lieu récemment. Et c'est vrai que l'acceptation politique des projets immobiliers neufs est plus difficile aujourd'hui à faire passer. Et j'ajoute qu'en plus de ça, les PLU tels qu'ils sont en vigueur aujourd'hui dans les communes ne sont absolument pas toujours adaptés à, on va dire, la quête du bas carbone, alors qu'il existe plein de solutions juridiques dans les PLU pour pousser la profession à innover davantage sur le développement durable. Hein. Je prends des exemples de PLU que l'on peut voir dans d'autres régions de France où on a des incentives, des bonus de constructibilité avec des contreparties environnementales. Il y a des PLU en France qui existent avec ça et on n'arrive pas à le mettre en place ici. Il y a aussi un antagonisme, c'est qu'on a toujours un espèce de bashing de la construction en France qui est assez, il faut bien comprendre que c'est pour la promotion immobilière, l'ennemi c'est aussi le carbone. Notre ennemi c'est aussi le carbone parce que d'abord on ne fait qu'innover pour rendre des logements moins énergivores avec des solutions de matériaux qui sont de plus en plus durables dans nos constructions. Et en plus j'ajoute que nos clients aujourd'hui, le développement durable dans nos opérations devient un vrai facteur d'attractivité. Donc, il faut arrêter avec cet antagonisme entre le promoteur qui construit et le citoyen qui rejette la construction. Je pense que...
Il y a un terrain d'entente à trouver.
Bien sûr. Et j'ajoute quand même que l'aspect développement durable est un point essentiel que soutient la profession. Mais il faut trouver un juste équilibre entre pouvoir d'achat et protection de la planète. Voilà. Je rappelle quand même que sur la région Occitanie, la promotion immobilière privée produit plus de 60% du logement social. Donc si on arrête de produire, au-delà du fait que les prix de vente vont augmenter et qu'on va malheureusement loger que les riches, on va en plus couper l'alimentation du marché en logements sociaux, alors qu'à peu près 60% de la population sur notre territoire est éligible au logement social.
Merci Laurent. En deux mots, Roch, et rapidement du coup, parce qu'on arrive vraiment au terme de cette émission, et Julien, vos positions justement sur ces réflexions qui sont à mener et qui concernent l'avenir de l'urbanisme. Roch, rapidement.
Il est toujours vertueux de réfléchir à construire mieux, comme l'a dit Laurent. Je crois qu'on a toujours tenté d'évoluer. Aujourd'hui, nos élus attendent effectivement que nous soyons particulièrement, volontaristes, efficaces dans cette démarche-là. Nous serons au rendez-vous. J'espère qu'ils le seront aussi quant à cette notion d'intérêt général qu'est la production de logements en France.
Merci, Roch. Julien, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, non, dans les rajouts, ouais, peut-être c'est cette difficulté à reconstruire aussi la ville sur la ville quand on a la problématique de la démolition et de l'intérêt patrimonial de la conservation de certains bâtiments qui parfois sont au point de s'écrouler. Voilà, c'est une autre problématique que je voulais rajouter parce que Narbonne y est confrontée et c'est difficile de se projeter. Moi, je suis encore dans l'attente. Enfin, du moins des services de l'État, du gouvernement, de nouvelles mesures pour désenclaver la situation.
Voilà. Eh ben merci Julien pour cet ajout. Et je crois que reconstruire la ville sur la ville, ça n'est pas seulement pour le coup, et ça, à savoir si les promoteurs prendront le virage, mais ça n'est pas seulement détruire pour reconstruire, mais ça peut aussi être un tournant vers la réhabilitation. On aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ici quelques temps. Écoutez, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous avez également passé un bon moment dans cet hebdo des régions. Je vous souhaite une excellente journée, messieurs, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine édition de l'Hebdo des Régions. À très bientôt sur Radio Immo.
L'Hebdo des Régions avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Une émission à réécouter et télécharger sur radio.immo, l'application mobile radio.immo et tous les agrégateurs de podcasts.